Podcast La Première.
Et tout de suite, on retrouve le forum de midi avec vous, Fabienne Vandemerche.
Mais oui, Sophie, merci pour ces informations. Prochain point à 12h30. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum. Le secret professionnel sera au centre de notre forum aujourd'hui. Est-il menacé dans son principe pour des raisons de sécurité publique? En tout cas, une proposition de loi NVA est adoptée. Majorité plus CDH contre PS et SPA en commission en fin de semaine dernière impose aux travailleurs sociaux de fournir des informations qui pourraient constituer des indices d'infraction terroriste. Cette proposition a et continue de susciter beaucoup de remous et pose évidemment la question pour les assistants sociaux, mais aussi qu'en sera-t-il peut-être des avocats, des médecins, des journalistes. Nous allons en parler avec nos invités. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus si vous souhaitez poser une question ou donner un avis dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires
sur Twitter,
hashtag Midi1,
sur la page Facebook
Le Forum de Midi,
par téléphone au 02 737 37 07.
Le Forum de Midi Première,
Fabienne Vandemerche.
Et ce projet de loi, ou cette proposition plutôt adoptée en fin de semaine dernière, son idée c'est de contraindre donc les CPAS à communiquer des informations administratives à un juge qui les demande dans le cadre d'une enquête sur des faits de terrorisme. Ça c'est en gros, nous allons faire le point sur ce sujet. J'ai invité le recteur de l'Université libre de Bruxelles, Yvon Englert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réagi immédiatement en publiant une lettre ouverte au Premier ministre pour à la fois manifester votre opposition et votre inquiétude. On va en parler dans un instant. Avec nous également le président des CPAS de Bruxelles, Fédération des CPAS bruxellois, voilà, c'est le titre exact, Jean Spinel, bonjour.
Bonjour, humblement voilà. Président du CPAS de Saint-Gilles.
Et également, et c'est peu de dire qu'il y a une réticence, même s'il y a des nuances à apporter, à se plier à cette mesure de la part des CPAS, on va en parler. Georges Dalmagne est également avec nous, bonjour.
Monsieur bonjour. Dalmagne,
vous êtes député fédéral CDH, vous êtes vice-président de la commission d'enquête attentat terroristes. Alors, vont nous rejoindre dans quelques minutes également pour participer à ce débat. Denis Ducarme pour le MR, sans doute Éric Massin pour le PS et Patrick Henry pour avocat.be. Une première question, un tour de table avec vous. Notre société en Belgique n'est pas une société de délation. Pour autant, être opposé à une forme de dénonciation, est-ce que c'est un principe absolu, quelles que soient les circonstances, monsieur Englert?
Non, bien sûr que non. D'abord, il n'y a pas de valeur absolue dans un monde démocratique, en tout cas, puisqu'il y a souvent des conflits de valeurs qu'il faut gérer. Ce qui est important de dire, me semble-t-il, c'est que dans le droit existant, donc antérieurement aux propositions actuelles, cette pondération existe. Mais évidemment, Le secret professionnel est un élément très central de l'équilibre des pouvoirs et, bien entendu, de manière récurrente, il irrite les pouvoirs parce qu'il les limite, évidemment. Et donc, il y a toujours une espèce de tendance à vouloir les renier. Et bien entendu, la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui en post-attentat est la situation rêvée pour renier ce droit. Et je pense qu'il est extrêmement important de le défendre avec toute la fermeté requise, sans pour autant considérer qu'on soit, imprudent par rapport à la sécurité publique.
Mm-hmm. Monsieur Dalmagne, oui, sur ce point, dans notre société en Belgique, oui.
Je voudrais rappeler brièvement le contexte dans lequel cette loi a été adoptée en commission terrorisme par la Chambre la semaine dernière. Je suis membre de la commission attentats terroristes. Depuis le début de nos travaux, nous nous rendons compte à quel point le problème central dans la prévention des attentats terroristes, c'est le partage d'informations. À quel point cela a fait défaut, à quel point certaines informations ont été gardées sous le coude par des autorités publiques, quelles qu'elles soient. À quel point nous savions en réalité la dangerosité de certains des auteurs des attentats terroristes à Bruxelles et à Paris. C'est ça qui est au cœur finalement de ce débat. Et donc nous nous sommes rendus compte que certaines informations précieuses avaient été gardées sous le coude, y compris par certaines institutions de sécurité sociale, et qu'il était indispensable que chacun puisse coopérer en matière de prévention du terrorisme. Et les magistrats s'en sont émus parce que les magistrats ont demandé certaines informations et n'ont pas pu avoir certaines informations. Alors, je veux dire que la plupart des institutions ont coopéré, y compris d'ailleurs des travailleurs sociaux, y compris des éducateurs qui ont effectivement vu qu'il y avait parfois des menaces, parfois des dangers, et qu'il fallait faire, qu'il fallait transmettre ces informations, qu'il fallait pouvoir alerter les autorités publiques. Mmh. Mais certaines personnes, certains CPAS, très minoritaires d'ailleurs, ont estimé que le secret professionnel était une obligation absolue. Ce qui est faux en droit, le professeur Englert vient de le rappeler, c'est faux. Le secret professionnel est évidemment très précieux, très important. Je suis médecin moi-même, je sais de quoi je parle. Et donc, il faut y faire très attention. Et en même temps, on sait que par rapport à une menace, et le code pénal d'ailleurs le prévoit explicitement, que par rapport à certaines menaces, par rapport à des menaces sur des individus, sur la société, eh bien il peut y être dérogé dans des circonstances exceptionnelles et moyennant des procédures exceptionnelles. Et parce que nous tournions en rond depuis 2 ans sur cette question, sans pouvoir avancer sur certains éléments d'enquête terroriste, avec d'un côté les magistrats qui disaient « mais non, le secret professionnel n'est pas absolu », et d'autre part certains personnels d'institutions de sécurité sociale qui disait « mais si, il est absolu, et d'ailleurs, nous risquerions d'être poursuivis devant les tribunaux si nous dérogions au secret professionnel », c'est parce qu'il y avait peut-être une clarification à faire, et j'insiste sur ce terme de clarification, nous ne sommes pas en train de bouleverser le droit, nous sommes en train de clarifier simplement quelles sont les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé au secret professionnel dans le cas du terrorisme. Et bien, dans ce cadre-là, nous avons clarifié en rajoutant un élément au code d'instruction criminelle, qui est tout à fait prévu, encore une fois, par le code pénal. D'ailleurs, il existe explicitement déjà dans le code pénal une série de dérogations, par exemple pour le viol sur mineur, par exemple pour des atteintes sur des personnes qui sont vulnérables. Mmh. Et donc, on n'est pas en train de bouleverser le droit, on n'est pas en train de bouleverser les libertés, on est en train, en matière de terrorisme, de faire en sorte que chacun puisse coopérer sur des menaces graves qui pèsent sur notre société et qu'on ne puisse pas, effectivement, invoquer de manière, à mon avis, abusive un secret professionnel que nous souhaitons, bien sûr, aussi conserver et que nous souhaitons, évidemment, protéger à l'avenir. Ça me paraît évident.
Alors, la crainte, évidemment, qui est émise, c'est que, en effet, si ça ne bouleverse pas, ça ouvre, en tout cas, une forme de brèche dans cette...
Déjà des exceptions.
Mais justement, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais donner la parole à Jean Spinette pour les CPS, parce que vous êtes évidemment directement concerné et premièrement concerné par
tout à fait, particulièrement concerné en première ligne, parce qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement de moi-même dont j'ai envie de me faire l'écho, mais de la difficulté que rencontrent nos travailleurs sur le terrain. C'est un procès, un faux procès qui est fait au CPS. Je pense que, je l'ai souvent répété, nous sommes plutôt attendus, je pense, dans l'action au quotidien auprès des jeunes qui pourraient éventuellement se faire embrigader. Et donc cette question qui met en cause notre professionnalisme et notre attention et notre sincère intention de contribuer comme tout un chacun en tant que citoyen responsable par rapport à la problématique du terrorisme, c'est une chose certaine, nous y sommes particulièrement attentifs. Par contre, c'est bizarre, cette affaire, elle est venue mélanger aussi avec d'autres débats sur la lutte contre la fraude sociale dans la bouche d'une institution de notre État, qui est un procureur général, qui a laissé entendre que nous couvririons le djihadisme et la fraude sociale. Et effectivement, cette atteinte au secret professionnel des assistants sociaux et des différents intervenants liés à la sécurité sociale et la banque Carrefour nous paraît un peu, quelque part, une attaque sur le maillon faible. On s'attaque finalement à... ou finalement plus démunis quelque part. Pourquoi est-ce que, parce qu'on est bénéficiaire du revenu d'intégration, on doit renoncer à une liberté aussi fondamentale que le droit à la vie privée? Alors effectivement, je trouve un peu le procès particulier. Quelle corrélation et quelle certitude avons-nous qu'il y a plus de gens qui sont djihadistes, qui sont demandeurs d'un revenu d'intégration ou de l'aide sociale d'un CPS? Alors on va caricaturer mon propos, mais je pense que c'est cela dont il est question. Et je n'ai pas la conviction que le dispositif tel qu'il est conçu, et nous étions en négociation avec le ministre Borsu, qui lui-même avait clairement annoncé ses intentions de faire évoluer le droit pour préciser celui-ci. Nous sommes convaincus que la proposition sur la table n'est pas de nature à préciser les choses. Elle entend venir à l'aide de l'assistance sociale, mais c'est l'assistance sociale qui, lui, va devoir peser le pour et le contre de tous les enjeux que nous allons évoquer, alors qu'il est déjà dans une situation de travail intense et soumis à de nombreuses pression, il est difficile pour lui aujourd'hui de gérer tout seul cette question. Alors c'est vrai qu'on demande à l'assistant social, aux travailleurs de terrain, à tout intervenant, d'être lui-même actif. On parle d'une d'une démarche active. On ne parle pas d'une démarche passive de transmission d'informations, parce que la proposition comporte deux volets. Et ici, on doit livrer des indices sérieux. Quels sont-ils ? Le Conseil d'État a quand même demandé un certain nombre de clarifications pour qu'on précise cela. Nous sommes convaincus qu'on jette, sous couvert de lutte contre le djihadisme, on jette quelque part une certaine complexité dans ce qu'il est déjà aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que le droit commun permet déjà, devant un danger grave et imminent, de lever son secret professionnel et de demander à déposer dans les mains d'un juge d'instruction. Effectivement, aujourd'hui, on devrait livrer ça au procureur du roi, qui, me semble-t-il, est déjà assez débordé pour traiter l'information. Et on questionne le fait que ce ne soit pas transmis aux cellules en charge de la lutte contre le terrorisme, plus spécifiquement, qui, elles, seraient plus habilitées à traiter cette information et à faire le départ entre ce qui est une information pertinente et celle qui ne l'est pas.
Voilà donc pour ce premier tour de table. Je reviens à vous, Yvon Anglais, recteur de l'Université de Bruxelles. Vous avez réagi par une lettre ouverte au Premier ministre dans laquelle on perçoit à la fois une grande inquiétude mais aussi beaucoup de colère. Je me trompe ?
Oh, je ne sais pas si on peut dire beaucoup de colère. En tout cas, une très grande fermeté. Vous savez que je suis aussi médecin et donc ce n'est pas évidemment par hasard que je suis peut-être plus attentif ou plus sensible. Ce que je trouve qui n'est pas correct dans ce que M. Dalmagne a dit, c'est de dire qu'on précise les choses, on bouleverse de manière radicale le secret. Pourquoi ? Parce que, et cela est vrai, dans notre droit actuel, existe toute une série de dispositions qui permettent de lever le secret justement pour tenir compte des autres valeurs dont la protection de la vie ou de la santé d'autrui si elle est menacée. Et donc les dispositions actuelles permettent parfaitement cela. Ce que fait la proposition de loi, c'est d'instituer un devoir de délation. Et ça, c'est très différent. C'est un devoir, ça veut donc dire que la personne qui ne le ferait pas s'exposerait non pas sous forme du 422 bis, c'est-à-dire de la non-assistance à personne en danger, mais bien sous la disposition de la nouvelle loi, du fait de n'avoir pas transmis des informations qu'il possédait. L'effet toxique de cette mesure, au-delà qu'à mon sens elle met à bas le secret professionnel, parce qu'il va inévitablement s'étendre à l'ensemble des professions. Il n'y a aucune raison que les assistants sociaux soient une catégorie professionnelle particulière. Mais c'est qu'elle rend le travail social, elle est contradictoire fondamentalement avec le travail social, qui est un travail de confiance avec la personne qui est en face de soi, et qu'elle risque même, à mon sens, d'avoir un effet pervers contraire, c'est-à-dire d'affaiblir un filet de notre société qui permet d'éviter à un certain nombre de gens de tomber dans le désespoir et la rancœur irréversible par rapport à une société dont il a le sentiment qu'il en est exclu, avec tous les risques que cela comporte.
Alors nous avions fait, je vais vous donner la parole dans un instant, Monsieur Dalmagne, pour répondre à Monsieur Anglais, mais nous avions fait ici dans le forum il y a quelques mois, à l'occasion d'une actualité qui le demandait, une émission sur ce sujet du secret professionnel avec un médecin, avec un avocat, avec un prêtre également. Et il faut effectivement se situer, c'était ça en résumé ce qu'avait donné cette émission, il faut se situer en fonction des codes de déontologie, mais aussi de sa propre conscience de citoyen. Et donc, sans une assurance de secret professionnel, comment maintenir la confiance entre un médecin ? Alors, vous êtes tous les deux médecins, M. Dalmagne, M. Anglais. Comment maintenir la confiance entre un médecin et son patient, entre un avocat et son client, entre un croyant, le cas échéant, et son confesseur ? Donc, c'est aussi ce type de problème fondamental. C'est un problème fondamental qui est posé par cette forme de remise en question aujourd'hui, hein, M. Dalmagne.
Je suis tout à fait d'accord avec la manière dont vous posez la question du secret professionnel, c'est-à-dire que c'est évidemment à la fois un droit, une obligation extrêmement importante et qui régit toute une série de relations sociales et de protections à l'égard de certains individus. En même temps, encore une fois, il ne peut être absolu. Et quand j'entends Yvon Anglais, j'ai parfois l'impression, et Jean Spinette, qu'ils n'ont pas lu la proposition de loi qui est sur la table. D'abord, il ne s'agit pas de viser les CPAS. La loi qui avait été déposée, la proposition qui avait été déposée par la NVA a été recalée par notre groupe et par le Conseil d'État est retiré. Il s'agit d'une loi qui concerne l'ensemble des institutions de sécurité sociale. Qui sont déjà,
dont les CPS.
Qui sont déjà l'ensemble des personnels. Oui. Donc il ne s'agit pas seulement, donc il s'agit
c'est
de l'ensemble.
Ça le problème.
De, non, justement, l'ensemble de personnels. Et c'est déjà prévu dans le code d'instruction criminelle. Il est déjà prévu que les institutions de sécurité sociale, c'est dit explicitement, doivent pouvoir dénoncer tout crime et délit auquel ils font face dans le cadre de leur fonction. Donc on n'est pas en train de bouleverser.
Mais donc, je chipote sur les mots, mais doivent pouvoir. C'est prévu, donc, mais pas
que,
doivent.
Bah, alors, non, alors, non, pas, mais
pourquoi
attendez,
si c'est déjà prévu, alors il ne faut pas la, il
déjà
faut pas
sont
la faire.
Deux, déjà qu'ils sont deux pour me faire la réplique.
Oh.
Si en plus je ne peux pas terminer mon raisonnement, mais donc...
Il y a Denis Ducarme va arriver dans
donc,
quelques minutes.
Vous serez deux poids lourds.
Si je peux simplement poursuivre M. Englert, donc on n'en est pas du tout dans le fantasme du Big Brother. On est simplement dans une situation où, encore une fois, la plupart, justement, des institutions de sécurité sociale ont eu du bon sens à l'égard des magistrats qui leur ont fait des demandes express ou sont venus spontanément en disant « Écoutez, telle personne est en train de partir en Syrie pour faire le djihad, c'est inquiétant. » Ou « Telle personne est en train de diffuser des propos menaçants sur Internet et c'est en train de, est en train de mettre en danger la société. » Mais certains d'entre eux ont dit non. Nous ne ferons pas cela, parce que notre secret professionnel est absolu. Nous ne donnerons pas à un magistrat qui le demande une information, parce que nous considérons que ce secret professionnel est absolu. Et on a eu beau leur dire, et les magistrats le leur ont dit, moi je fais un peu confiance quand même, encore aussi, aux institutions.
Non, donc au CPAS aussi.
Et bien sûr, je fais confiance au CPAS. Et donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez qu'il y a un CPAS à Bruxelles, en réalité, pour mettre les points sur les i. Qui a refusé la coopération avec la justice. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est parce qu'un CPAS, le plus grand, le CPAS de Bruxelles, a refusé de
quelle
coopérer
est la, avec la justice. Quelle est la question qui a été posée de, lever un secret attendez. Professionnel répond à des demandes précises qui doivent être formulées.
Eh bien, les magistrats ont posé des questions précises et il leur a été répondu qu'on ne pourrait pas coopérer en matière de terrorisme. Et moi, ça me choque. Je veux le dire clairement. Cela me choque que des institutions... fût-elle de sécurité sociale, quelle qu'elle soit, lorsqu'elles sont confrontées à une menace aussi grave que le terrorisme, se défausse en invoquant un droit absolu et une obligation absolue. Et je rappelle, encore une fois, que le code pénal prévoit explicitement des exceptions pour des personnes vulnérables. Attendez, je termine juste mon propos.
Allez-y.
Pourquoi est-ce que pour des personnes vulnérables, ici en Belgique, en raison de leur âge, par exemple, il y a une obligation de coopérer avec la justice? Et pourquoi est-ce qu'en matière de terrorisme, il n'y en aurait pas? Dites-moi.
Monsieur Spinette,
je conteste d'abord qu'il y a une obligation de coopérer avec la justice. L'article 60 du code de déontologie qui prévoit explicitement le devoir pour le médecin d'intervenir dans les maltraitances d'enfants et dans les maltraitances de personnes âgées ou de situations de personnes vulnérables qu'on fait appel ici, c'est de dire qu'il faut intervenir pour protéger la personne. Et si cette intervention nécessite de recourir aux instances judiciaires, on est en droit de le faire et c'est bien normal. Ce que je répondrai à M. Dallemagne, c'est que si la situation est bien celle qu'il décrit, eh bien la réponse de l'État n'aurait pas dû être de changer la loi, mais de déposer plainte en considérant que le CPS en question avait outrepassé mésutilisé le droit, parce que ce droit n'est pas absolu, nous l'avons tous les deux dit, et là-dessus nous étions d'accord. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est d'avoir confiance dans la construction du droit tel qu'il est, et d'engager des poursuites en disant « vous faites une utilisation abusive ». Et ça c'est une réponse démocratique à l'intérieur d'un désaccord et de demander à la justice d'arbitrer cette différence d'interprétation.
Il y avait
monsieur
un problème Dalman, de clarification
attendez,
du
Dalman,
droit, nous avons préféré clarifier
de,
le droit.
Vous n'avez pas
Dalman,
clarifié
le Conseil
le
d'État qui le
on
dit.
On va continuer,
vous ne clarifiez
on a le
pas
temps
le droit.
Jusqu'à 13h pour en
vous
parler.
Modifiez la
maintenant,
loi.
Vous maintenant, modifiez
parce que vous.
Oui mais maintenant il faut une publicité. Impérativement.
Impérativement.
Donc voilà, c'est impérativement.
C'est déontologique.
Voilà. Et on... ça, je n'ai pas dit ça. Et on se retrouve juste après.
Midi 13h.
Midi première.
Fabienne Vandemerche.
Et nous parlons du secret professionnel avec Georges d'Allemagne, dont vous avez certainement reconnu la voix à l'instant, député fédéral de CDH et vice-président de la commission d'enquête attentats terroristes. Yvon Engler, recteur de l'Université de Bruxelles. Jean Spinette, président de la Fédération des CPS bruxellois. Monsieur Spinette, sur ce que l'on vient d'entendre d'abord, parce que sur cette histoire de sanctions ou pas de sanctions, je lis que le texte ne prévoit pas de sanctions pour le travailleur social qui ne signalerait pas d'éventuels indices qui pourraient être des signes d'infraction ou d'actes terroristes.
Et à l'inverse, oui, non, mais attendez, à l'inverse, attention, parce qu'à l'inverse, effectivement, le texte ne prévoit pas de sanctions, mais il oblige les personnes à communiquer de manière active des indices sérieux. Si ceux-ci ne sont pas sérieux, qu'on commet une erreur parce qu'on n'est pas formé à cela, qu'effectivement, si on dévoile son secret professionnel, on est toujours passible de sanctions au regard de l'article 458 du code pénal actuel qui précise qu'effectivement nous sommes passibles de sanctions pénales et d'amendes financières. Alors c'est facile de dire qu'il n'y en a pas dans le dispositif et d'obliger à dénoncer de manière active, alors qu'en fait nous n'avons pas, nous, un droit au silence, c'est pas de ça dont on parle. On parle d'un devoir de se taire pour protéger la vie privée et l'intime dont nous entrons en possession. Effectivement, on est nous-mêmes demandeurs de clarification, mais quelque part dans l'échange que nous avions avec le gouvernement, nous ne nous attendions pas à une proposition qui arrive dans un débat sur le terrorisme par rapport à la notion de secret professionnel. Effectivement, toucher à une chose aussi essentielle et un des piliers aussi fondamentaux de notre travail et des piliers d'un état de droit dans la démocratie, la confiance qu'on peut avoir dans les institutions et des gens dans lesquels on doit déposer des choses particulièrement essentielles, c'est là dont on parle. Dans la pratique aujourd'hui, dans nos CPS, nous sommes soumis à de très nombreuses sollicitations. Chaque fois, celles-ci font l'objet d'une analyse avec nos services juridiques pour bien mesurer la proportionnalité de l'intérêt de divulguer son secret professionnel pour respecter le devoir que nous avons de maintenir ce secret professionnel. Et chaque fois, la question est posée en concertation dans l'institution. Ici, le problème, c'est qu'on fait peser la pression sur le travailleur, pas sur l'institution elle-même. Et donc, effectivement, toute personne dans la ligne peut être appelée à dévoiler son secret professionnel et donc celui des autres, avec tout ce que ça pose comme problème de responsabilité. Nous eussions préféré une réflexion de fond où, effectivement, dans la transmission des données, peut-être qu'un certain nombre des données dont nous sommes tributaires, que nous gardons, sont dans la banque Carrefour aujourd'hui, qui est consultée par de nombreuses personnes. Les tribunaux pourraient très bien utiliser les données qui y figurent en obtenant l'autorisation de consulter ces données qui, celles-là, sont peut-être plus objectives sur l'octroi du revenu, le montant, la date du début, la date de fin. Pas des éléments essentiels liés à notre métier. Le problème, c'est que la façon dont on nous pose la question n'est pas toujours précise. Elle demande de manière générique à transmettre tous nos dossiers. Effectivement, contre ça, nous faisons rempart de notre secret professionnel parce que ça n'est pas comme ça que nous sommes appelés à déposer et à livrer la vie privée des gens.
Alors dans ce cas précis, vous parlez évidemment ici au nom des CPAS bruxellois, mais j'imagine que vos collègues des CPAS en Wallonie sont sur la même longueur
d'onde. Nous sommes empreints de doute dans cette question, parce que nous sommes tous confrontés à notre propre secret professionnel. Les trois fédérations se sont prononcées avec ces doutes-là, en demandant qu'il y ait un débat serein, qu'on précise le cadre. Nous sommes ouverts à une collaboration dans la lutte contre le djihadisme, mais je pense que notre place sera plutôt dans le rendez-vous, dans la prévention, maison par maison, jeune par jeune, pour les écarter de cela en mettant en place des dispositifs de formation, d'insertion. C'est ça notre métier. Notre premier métier est la cohésion sociale. Et donc, si vous voulez nous renforcer pour lutter contre le djihadisme, n'hésitez pas.
Alors, nous allons continuer cette émission Forum de Midi, bien entendu, dans un instant après les titres du journal.
Le Forum de Midi Première, Fabienne Vandemerche.
Et nous parlons donc du secret professionnel, une proposition de loi NVA adoptée majorité, plus le CDH contre le PS et le SPA en commission fin de semaine dernière. Nous en parlons depuis midi avec Georges d'Allemagne, député fédéral CDH, Yvon Engler, recteur de l'Université de Bruxelles, Jean Spinette, président de la Fédération des CPAS bruxellois. Et nous avons à l'instant au téléphone Éric Massin, député fédéral PS. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la commission des affaires sociales à la Chambre et vous êtes par ailleurs président du CPS de Charleroi.
Effectivement.
Monsieur Massin, sur cette proposition, je vous remercie d'être là quelques instants parce que je sais que vous êtes dans une réunion dont on vous a extrait à l'instant. Ce qui vous inquiète, voilà exactement. Ce qui vous inquiète, c'est le fait lui-même, mais aussi l'idée du MR. De l'étendre à toutes les infractions graves en réalité.
Oui, tout à fait. Donc, pour moi, cette proposition de loi, c'est un véritable cheval de Troie. Aujourd'hui, nous avons des CPS qui répondent, contrairement à ce qui est affirmé. Je me suis inquiété d'ailleurs aussi au niveau du CPS de Bruxelles pour savoir pourquoi on venait dire qu'il ne répondait pas aux demandes qui étaient faites par le procureur général de Bruxelles. Mmh. C'est tout simplement parce que la demande, elle était générale. On demandait la communication des dossiers pour toute une famille et non pas sur des éléments bien précis. Et donc, c'est un cheval de Troie, tout simplement parce que certains ont affirmé, plus particulièrement le MR Borsu, donc ministre de l'intégration sociale qui a la tutelle sur les CPS, que pour lui, ça devait être étendu à l'ensemble des infractions graves. Alors, les infractions graves, ça peut être des crimes et délits, et ça, des crimes très importants, comme les infractions liées au terrorisme, mais ça peut être d'autres infractions telles que c'est prévu aujourd'hui. Un faux, c'est considéré par le code pénal pour l'instant comme étant une infraction grave. Et donc je dis que par rapport à ça, dans la garantie qui existe pour tout citoyen lorsqu'il est amené à avoir une relation de confiance avec quelqu'un, la garantie qui est le secret professionnel, c'est que demain ça n'existera plus pour personne, compte tenu aussi d'un projet de loi qui est sur la table du Parlement, ce qu'on appelle le pot-pourri 5, qui permettrait à un procureur du roi d'autoriser n'importe quel professionnel, donc en ce compris les médecins, les infirmiers, les psychologues, les psychiatres, les enseignants, à révéler un secret dont il est le dépositaire. On risque dès lors d'arriver à une société où plus aucun secret professionnel n'existe, plus aucune garantie de confidentialité n'existe, et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant dans une société démocratique.
Je vous remercie, Monsieur Massin, d'avoir été avec nous quelques instants. On va vous laisser retourner à cette réunion, à cette commission, évidemment, Casaxgate, et je pense que nos invités ici en studio, mais aussi nos autres invités par téléphone, auront l'occasion de réagir à ce que vous venez de dire. Alors, c'est vrai que si l'on étend cela à d'autres infractions, si on sort du contexte terrorisme dans lequel qui était directement concerné, on ouvre une porte encore plus largement, hein, monsieur Lallemagne.
Absolument. Et c'est ce que nous avons refusé. Et ce n'est pas dans la loi. Mm-hmm. C'était dans le texte initial de la NVA. Et nous avons exigé un amendement, et donc ça ne concerne que les infractions terroristes. Donc on ne parle pas de choses qui ne sont pas dans la loi. Mm-hmm. Nous votons sur des textes qui sont précis, donc je veux le dire. Il s'agit évidemment d'infractions terroristes. La deuxième chose que je veux dire ici pour clarifier les choses, c'est que, évidemment, les informations à caractère médical ne peuvent pas être transmises. Quelle que soit la personne qui soit en contact avec un terroriste, évidemment, ces données ne peuvent pas être transmises. Elles sont couvertes de manière absolue. La jurisprudence est constante à cet égard, quelle que soit la personne qui est concernée. Troisième chose que je voudrais rappeler, c'est qu'en matière de sanctions, il faut être clair. Il y a deux éléments dans la proposition de loi qu'on va adopter en plénière jeudi prochain. D'une part, il y a les informations de type administratif. Et c'est quoi ? Prenons un exemple concret. Il y a un djihadiste qui est en Syrie, qui est en train de faire le djihad. Le magistrat demande s'il continue à percevoir des indemnités, le chômage, des allocations familiales, et on lui opposerait le secret professionnel. C'est ce qui se passe dans certains cas. Ça paraît tout à fait scandaleux et abusif.
Mais bizarrement, l'information va dans les deux sens. Est-ce qu'on transmet au CPS l'information que les gens sont à l'étranger ?
Est-ce que les choses que je dis sont à ce point déplaisantes que vous deviez chaque fois m'interrompre, M. Spinette ?
Dallemagne, vous lancez des accusations.
Mais je ne lance pas d'accusations, c'est exactement ça qui est concerné.
Et
troisième chose en matière de sanctions pour des travailleurs qui sont confrontés à des indices sérieux d'infraction terrorisme, s'ils se trompaient, Si d'aventure il ne communiquait pas ces informations aux magistrats en estimant que ces infractions ne sont pas suffisamment sérieuses, que ces indices ne sont pas suffisamment sérieux, eh bien il ne serait pas poursuivi. Il n'y a aucune sanction qui est prévue dans le texte de loi. Et donc ça, il faut le répéter, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il faut encore le répéter, semble-t-il. Il n'y a pas de sanction qui est prévue. Et donc, bien évidemment, nous sommes concernés et nous sommes attentifs et vigilants et sensibles à la question du secret professionnel. Mais aussi, et je demande un tout petit peu de bon sens par rapport à une menace grave qui menace notre société, c'est que chacun puisse effectivement exercer son bon sens et que dans certains cas où il y a des indices sérieux de menace terroriste, c'est ça que vient clarifier la proposition de loi aujourd'hui.
Monsieur Spinette, juste un mot, enfin plus qu'un mot, mais je veux dire déjà au moins de ma part une question. Les assistants sociaux aujourd'hui sont formés pour repérer des signes, des indices de potentielle activité ou d'intention terroriste ?
Dans les cellules communales qui ont ont été conçus au niveau des bourgmestres, c'est clair qu'il y a eu une intention de créer des formations à destination des fonctionnaires. Mmh. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, pour parler de mon institution, de préparer une formation avec nos juristes qui tiennent compte des notions de secret professionnel et qui tiennent compte de notions interculturelles et de notions de base pour pouvoir se poser les bonnes questions et en référer à la hiérarchie et se poser les questions. Parce qu'on n'est pas naïf. Hein. Donc effectivement, nous sommes des gens sérieux, prêts à mesurer les questions. Mais j'ai envie de retourner à M. Dallemagne une autre question. C'est que sur base de notre droit commun, si quelqu'un s'éloigne du territoire belge de plus de 29 jours, et la présente majorité a en plus renforcé ce concept, de plus de 29 jours, il peut se voir supprimer son revenu d'intégration. Les mêmes interlocuteurs qui nous dénoncent en disant que nous ne donnons pas toutes les informations, nous donneraient simplement l'information qu'ils sont partis. Et nous ne le savons pas nécessairement, parce qu'effectivement, parfois, des liens se distendent avec un usager. Effectivement, si jamais nous sommes au courant qu'il est parti, il ne remplit pas ses obligations de venir à des formations, de rencontrer son travailleur social. Et donc, il n'y a aucun financement du djihadisme dans ce cadre. Et je pense d'ailleurs que le financement du djihadisme vient d'autres sources beaucoup, beaucoup plus importantes que le montant du revenu d'intégration.
Monsieur Anglais, vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre? Il y a Monsieur Lucarme également par téléphone.
Oui, donc ce que je voulais quand même attirer l'attention, c'est que je pense que le fait d'écarter le secret médical est une façon d'éviter l'opposition de l'ordre des médecins qui s'est exprimé de manière très critique
hier en commission
dans
justice,
dans ce dossier.
Sur un autre texte.
Et je voudrais quand même rappeler que pour le droit, le secret médical n'existe pas. Ce que la loi dit, c'est le secret professionnel. Okay. Et donc, le fait de créer une exception, là, est une façon simplement de cliver l'inquiétude. Alors que, soyons clairs, si M. Dallemagne pense que, dans les contextes qu'il évoque, il devrait y avoir une obligation de dénoncer, on comprend mal pourquoi cette obligation ne serait pas le fait de toutes les professions.
Mais évidemment, c'est le cas.
D'accord,
c'est le cas. Mais voilà. Sauf pour les données à caractère médical. C'est dans la loi quand vous dites que ce n'est pas visé par le texte de loi.
Donc,
il faut relire encore une fois la loi.
On est bien d'accord que c'est l'ensemble de la construction du secret professionnel qui est mis en balance, mis en danger
Il ne s'agira à aucun moment de donner des informations à caractère médical. Par contre, quel que soit le personnel dans une institution de sociale, mais public au sens large, qui est confronté à un indice sérieux de menace terroriste, même si c'est un médecin qui, en tant qu'un de ses patients, dit « Voilà, moi je vais commettre un acte terroriste », eh bien, il sera tenu d'en informer. Et ça me semble l'évidence même, le bon sens même. Et évidemment,
dans la loi actuelle.
Ce n'est pas suffisamment clair, semble-t-il, pour certains. Et malheureusement, il a fallu effectivement clarifier le droit, puisque certains estimaient que leur secret professionnel, et qui était à mon sens une appellation abusive, puisqu'on ne demandera jamais à un travailleur social de donner des informations à caractère social, à un médecin de donner des informations à caractère médical, mais simplement de signaler une menace terroriste sérieuse.
Si on demandait
un peu de bon sens,
si on demandait à Denis Ducarme, est avec nous par téléphone, son avis, chef de groupe MR à la Chambre. Monsieur Ducarme, merci d'être avec nous. Alors d'emblée, je vous soumets une réflexion qui arrive. On entend des assistants sociaux, en l'occurrence, s'insurger contre l'idée que cette proposition sous-tend qu'ils seraient en réalité des protecteurs de terroristes. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Je veux les rassurer et leur dire qu'on parle ici, pour recentrer, je vous ai écouté assez longtemps, d'infractions terroristes. On parle d'attentats. On parle évidemment d'un certain nombre de cas où des institutions sociales n'ont pas collaboré avec la justice et que ça a produit en effet des difficultés par rapport à des personnes à propos desquelles étaient entamées des enquêtes judiciaires pour infraction terroriste. Donc l'idée, elle est, comme c'est le cas au niveau de faits d'asile, comme ça devra être le cas au niveau de la les cellules de sécurité intégrale locale, qu'on appelle les CECIL, de faire voyager l'information pour mieux nous protéger. Et donc, il s'agit, et moi je l'ai constaté au fil des mois en commission d'enquête sur les attentats terroristes du 22 mars, davantage de faire que l'information s'échange. Il y a évidemment des points à gagner en la matière si nous voulons simplement élever notre niveau de sécurité. Et je voudrais dire aussi à l'ensemble des personnes qui dialoguent aujourd'hui avec vous que c'est ainsi que bon nombre de pays européens fonctionnent. J'ai pu me rendre à la préfecture de Paris, j'ai pu me rendre au Danemark, à Aarhus, où ils ont également rencontré un certain nombre de problèmes importants en matière d'infractions terroristes. Eh bien, dans ces pays, en toute confiance, collaborent, oui, les services publics, les services sociaux, les écoles même, et l'information s'échange quand il y a en effet un constat d'un signal faible, d'un signal faible ou d'un signal fort en matière de radicalisme. Donc, il ne s'agit pas de demander naturellement aux assistants sociaux de faire un travail qui n'est pas le leur. Nous recevions en commission terrorisme il y a quelques jours un représentant de Verviers, du centre d'intégration de Verviers, qui nous disait également, et ce n'est pas un policier, que dans un certain nombre de cas, eh bien, il fallait évidemment communiquer des informations constatées, parce qu'il s'agissait naturellement d'une question de sécurité. Et donc, c'est en fonction évidemment de la suite des formations, parce qu'il va falloir outiller naturellement les assistants sociaux, mais pas uniquement les assistants sociaux, parce qu'on parle de l'ensemble des institutions sociales et pas uniquement des EPS, de ce catalogue qui leur permettra d'identifier en effet un indice sérieux d'infraction terroriste. Et ici, je rappelle, comme M. Dallemagne le disait, on parle d'infraction terroriste.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas, M. Ducœur, il n'aurait pas fallu commencer par là, avant de commencer par la proposition de loi, de commencer par une formation et puis après de passer à une autre, éventuellement un autre stade, pour que il n'y ait pas justement cette ce que manifestement vous appelez de la mécompréhension.
Être prises, oui, évidemment que on ne laisse pas un certain nombre de travailleurs sociaux et d'autres représentants des institutions sociales seuls face à une situation qui, par la loi, devient une obligation pour eux. Donc il s'agit naturellement de les équiper et ils doivent à ce niveau-là être parfaitement rassurés. Il s'agit en effet de les outiller pour qu'ils puissent intégrer les informations qui sont des informations de toute première importance à communiquer aux services ad hoc qui, eux, feront le métier de policier, qui, eux, feront le métier de la justice, une fois, en effet, que cette information sera plus fluide. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate, eh bien, c'est que l'information ne voyage pas encore assez pour élever suffisamment notre niveau de sécurité.
Merci, Monsieur Ducarme. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs, des réactions assez violentes à l'égard de cette mesure, disant que ça fait peser sur les épaules des assistants sociaux, notamment une charge qui est impossible, et que ça en fait des auxiliaires de police, avec même un auditeur dont je perds à l'instant tellement il y a des réactions. Attendez, je termine ma phrase. Un auditeur qui dit qu'il faudra aussi gérer les éventuels représailles, parce qu'à partir du moment où on fait des révélations, ça pourrait se retourner contre les assistants sociaux eux-mêmes, qui n'ont pas en effet. C'est pour dire que les réactions sont quand même extrêmement violentes. Monsieur Anglaire, vous vouliez souligner un peu.
Oui, je voulais juste dire à Monsieur Ducarme que le fait qu'à l'étranger on fasse la même chose ne me rassure pas. L'évolution du monde autour de nous ne nous rassure pas, et je pense que c'est une raison de plus pour serrer les coudes autour des valeurs fondamentales, et je regrette de devoir être intervenu dans ce dossier, parce que je pense que la Belgique n'avait pas besoin de cela pour serrer les coudes autour de la protection de tout le monde. dans un domaine aussi sensible.
Nous avons avec nous par téléphone Patrick Henry, qui est l'ancien président d'avocat.be, donc l'ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique. Merci monsieur Henry d'être avec nous quelques instants. Votre président actuel, Jean-Pierre Beul, s'inquiète aujourd'hui dans la Libre de textes qui sont régulièrement déposés par des politiques et qui apportent d'une certaine façon des exceptions à des principes importants, comme maintenant le secret professionnel de certaines professions ou le droit au respect de la vie privée. Monsieur Henry. Oh, une si belle phrase. Et monsieur Henry n'est pas là. Bon, on va le reprendre dans un instant. Monsieur Spinette, sur cette dernière réflexion d'un de nos auditeurs qui disait, voilà, et ça fait peser une charge vraiment impossible sur les épaules des personnes qui sont... Alors, faisons-le globalement...
Mais la réalité, je pense que les chiffres qui ont été dévoilés par le bureau du plan sont assez exemplaires en la matière pour montrer l'étendue de la pauvreté et le nombre de bénéficiaires qui passent de plus en plus la porte de nos CPS. Mm-hmm. Nos travailleurs sociaux sont déjà aujourd'hui mis sous une pression terrible avec un cadre législatif très très complexe et chargé d'accompagner les gens pour les amener vers un meilleur. Et effectivement, les mettre dans un rapport de contradiction entre une mission d'aide et une mission de contrôle, c'est déjà le cas aujourd'hui dans le cadre de l'activation sociale. Mais si en plus vous y ajoutez une dimension plus sécuritaire, vous entendez bien que pour les travailleurs sociaux, ça devient insupportable en termes de tension. Et comme je le répète, il ne s'agit pas de faire peser le poids sur l'institution qui aurait une responsabilité par rapport aux données dont elle entrerait en connaissance, mais bien sur le travailleur lui-même. Je trouve que pour son isolement et le mettre en situation de devoir hésiter à un point tel que peut-être de dénoncer, de commettre des erreurs, je rappelle la question de la responsabilité. C'est un de nos secrétaires de CPS qui a été confronté très récemment en donnant des données soi-disant objectives, quand monsieur a commencé à travailler, quand il a arrêté autre, qui a été traîné devant les tribunaux, où justement on a mis en cause la façon dont elle avait levé son secret professionnel. Donc nous sommes en fédération, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, reformés beaucoup sur ces notions de secret professionnel, qui est la base même du travail social. Et effectivement, il est permis de se poser beaucoup de questions sur la proportionnalité, la façon dont nous délivrons une information, de pourquoi nous le faisons. Ce sont des questions essentielles qui sont défendues dans des jurisprudences constantes.
Monsieur Ongler, ce que vous aviez rédigé dans votre lettre ouverte, c'est qu'en commençant, si je puis dire, par les assistants sociaux, on ne pourra pas faire autrement que d'étendre la mesure à l'ensemble des professions ou des activités qui sont tenues à ce secret. C'était ça également une partie de votre inquiétude. Et donc, si Patrick Henry, si on a récupéré Patrick Henry de Avocat.
Je suis là.
Voilà. Merci, monsieur Henry. Vous avez entendu ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous aviez entendu la phrase d'avant, mais c'est vrai que c'est une crainte que vous partagez à Avocat.be.
Oui, absolument. Je crois que les avocats sont très préoccupés par ces propositions, qui sont d'ailleurs incessantes, d'apporter de nouvelles exceptions au secret professionnel. Il faut bien voir que le secret professionnel, ce n'est pas un droit ou une prérogative pour les travailleurs sociaux, pour les médecins, pour les ministres du culte, pour les avocats, etc. Mais chaque fois, une garantie d'un droit fondamental. La Constitution, la Convention des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne donnent des droits fondamentaux comme le droit à la santé, à l'accès à la justice, à la liberté de culte, à l'aide sociale. Et si des personnes ne peuvent se confier aux travailleurs sociaux, aux médecins, aux avocats, etc., en ayant la certitude que les confidences qu'ils font ne seront pas révélées, ils ne pourront plus exercer ces droits, ils n'iront plus voir le médecin, l'assistant social, qui ratera ainsi, dans ce cas-ci, toute sa mission de socialisation, qui est quand même quelque chose de très important au point de vue préventif. Bien sûr, il y a des exceptions. En matière médicale, il y a la transmission des maladies vénériennes, en matière financière, la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais ici, ce que l'on veut consacrer et élargir, c'est une exception qui existe déjà, qui est inscrite dans l'article 458 bis de notre code pénal et qui résulte d'ailleurs d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de 87, quand il y a un péril grave, imminent, certain, et que l'on ne peut pas y parer soi-même, pour des personnes, on peut alors effectivement, c'est l'état de nécessité, révéler les éléments que l'on possède.
Mmh. Oui, en effet, mais il y a quelque part dans un des textes aussi la notion de l'inquiétude. Si on a le sentiment que des actes ou des attitudes sont inquiétantes, eh bien, on doit pouvoir en faire état. Cependant, l'inquiétude, c'est une notion qui est un peu relative. C'est une notion à géométrie variable, non ?
C'est le moins qu'on puisse dire, et alors on touche là à une série de considérations qui sont très importantes aujourd'hui en matière de secret professionnel, c'est qu'on a l'impression que notamment avec l'interception, toutes les communications téléphoniques, électroniques, etc., le secret professionnel se réduit comme peau de chagrin. Mm-hmm. Ce qu'il faudrait alors, c'est qu'il y ait au moins une autorité indépendante qui puisse recevoir les éléments qui ont ainsi été interceptés ou communiqués, et qui pourrait vérifier si effectivement on se trouve en présence d'un cas qui traduit ce péril grave qui justifie une exception au secret professionnel, et on ne peut pas confier ça à des autorités de police. Mmh, mmh. Cela résulte d'ailleurs de plusieurs arrêts importants qui ont été prononcés par la Cour européenne des droits de l'homme et par différentes juridictions suprêmes. Je pense à un arrêt célèbre de la Cour suprême des Pays-Bas l'année dernière, par exemple.
Je vous remercie, monsieur Henry, d'avoir été avec nous. Un petit mot pour terminer. Petit, monsieur Delmagne, parce que nous allons terminer l'émission maintenant.
Oui, d'abord, je voudrais vous rassurer, le mot inquiétude n'apparaît nulle part dans le texte. Il est question d'indices sérieux d'attentats terroristes. Mm-hmm. D'autre part, il ne s'agit pas de confier cette information à une autorité de police, mais bien à un magistrat. Et puis, je voudrais juste terminer pour redire le contexte dans lequel on est. Ce n'est pas comme si on avait gagné la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas comme si on n'avait pas failli en matière de protection de la population. Mm-hmm. Il y a eu des défaillances graves en matière de lutte contre le terrorisme. Et la transmission d'informations est au cœur de ces défaillances. Okay. Et donc c'est important de rappeler cela. Et il ne s'agit pas d'aller divulguer des secrets sociaux ou médicaux. Il s'agit simplement d'un peu de bon sens en matière d'alerte sur une infraction terroriste, et chacun est concerné.
Alors juste pour préciser, dans le futur article 458-ter du Pot-pourri 5, et dans l'exposé des motifs, il est mis que le dépositaire du secret dispose d'une information inquiétante pour l'intégrité physique ou mentale, et quel que soit le niveau de gravité de cette information. Donc l'inquiétante étant, c'est sur le mot inquiétante...
C'est pas le même, vous parlez d'un autre texte de loi, madame Van der Merch.
Mais ça sera...
Oui, mais ça n'est pas celui-là qu'on vote aujourd'hui.
Non, d'accord.
Pourquoi faut-il faire la confusion?
Mais Parce qu'on est en train de faire peur aux gens sur des choses qui ne sont pas dans la loi.
Cette loi est très équilibrée. Nous y avons été attentifs. Et le Conseil constitutionnel également.
Je pense que ceci montre le pot-pourri 5 que je découvre, montre qu'il y a donc un faisceau d'arguments qui affaiblissent les protections juridiques autour du secret. Or, dans notre société d'aujourd'hui, où la communication d'informations, les moyens électroniques, l'accès à une multitude d'informations sur les citoyens fait que le cadre du droit est devenu plus important que jamais pour la protection des droits fondamentaux. Évidemment. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas y toucher.
Nous allons terminer ici, mais ce n'est certainement pas la dernière fois que nous parlons de ce sujet. C'est une impression assez forte. Merci en tout cas à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Et dans 3 minutes, il sera 13 heures plutôt, et vous entendrez le journal.